Lorsque Denis Crouzet m'a contacté pour contribuer à ce colloque, j'ai proposé spontanément et rapidement une communication, en quelque sorte, sur la réception et la diffusion des méthodes et des idées de Pierre Chaunu dans l'historiographie qu'il a suivie, un peu naïvement d'ailleurs. Je voulais travailler sur le monde ibérique qui lui était cher et qui m'est cher aussi, et avec l'idée de repartir pour le monde ibérique sur un champ pour lequel il avait peu exploré cet espace-là, à savoir la mort. Et donc je suis reparti essentiellement de la mort à Paris et de ses écrits de la fin des années 70 et du début des années 80, avec l'idée de les confronter aux travaux extrêmement nombreux qui ont été publiés immédiatement dans la foulée, en Espagne, au Portugal et puis en Amérique latine, sur des problématiques comparables. Le moment paraissait d'ailleurs propice à ce type de travail, puisque l'an dernier, une des pionnières de l'histoire de la mort ibérique, María José de la Pascua, a publié une sorte de bilan historiographique qui proposait un contrepoint. Il ne s'agissait pas vraiment de faire un bilan critique, je trouve que ça n'a pas grand chance, pas grand intérêt de critiquer un ouvrage 40 ans après, mais de voir comment la lecture de l'historiographie avait été sélective, parce qu'on apprend justement beaucoup de ce que l'historiographie oublie. Et alors j'ai vite réalisé en quelque sorte que la moisson serait très frustrante et très limitée, puisque comme mes camarades du début de l'après-midi, j'ai constaté amèrement que Pierre Chaunu était quand même relativement peu présent dans cette historiographie. Et donc mon interrogation porte un petit peu sur les raisons de ce refoulement. Et voilà, ce que je vais faire, c'est revenir un tout petit peu sur la présence de Chaunu dans cette historiographie, et puis ensuite essayer de repenser un tout petit peu le projet intellectuel de la mort à Paris et d'essayer de trouver des raisons de ce refoulement dans le projet assez original finalement qui est présenté. Donc je repars de l'éclipse de son travail. Dans les travaux sur la mort qui sont publiés dans l'espace ibérique, Pierre Chaunu est cité assez modérément. Il est surtout très peu exploité et très peu compris. Il est absent régulièrement et puis de plus en plus de la bibliographie de nos collègues espagnols et sud ou nord-américains, soit qu'il ne parlait pas aux historiens qui auraient pu le lire, soit qu'il ait été délibérément écarté dans leur lecture. Alors pourquoi ? D'abord, c'est parce que Pierre Chaunu a d'abord été lu comme l'un des protagonistes d'une sorte de label qui, en fait, qui serait l'historiographie française de la mort. Et il est dans ce groupe une sorte de queue de comète, c'est-à-dire qu'il est lu dans la foulée de la réception de Michel Vauvel et Ariès, qui sont en définitive beaucoup plus cités que lui. Les différences d'approche et de perspective entre ces trois auteurs, qui sont pourtant assez flagrantes, sont complètement passées sous silence. Je rappelle que tout l'enjeu du travail de Pierre Chaunu, à l'inverse de Vauvel, était de faire une lecture religieuse de ses travaux sériels pour en faire un indice ou une preuve des succès de la réforme catholique. Ça passait par deux déplacements assez symptomatiques de ce décalage. D'abord, la régression jusqu'au XVIe siècle, et puis la multiplication du nombre de sources par rapport au testament. Il y a dans le livre un va-et-vient permanent entre les testaments qui sont supposés être le fil directeur annoncé, et puis des sources beaucoup plus variées. Et quand les historiens espagnols font ce choix-là, en général, ils ne citent pas Chaunu, ils réagissent juste de la même manière que lui à la lecture de Michel Vauvel. Et donc, dans cet écart, si vous voulez, toute la problématique pastorale et, de Pierre Chaunu disparaît et se désarticule. Ce biais déformant est encore plus frappant quand on cherche sa fortune outre-Atlantique. Les chercheurs nord-américains, quand ils se penchent sur la mort, citent de plus en plus un chercheur américain des années 90, Carlos Herr, qui lui-même avait reçu l'héritage de Chaunu par les historiens espagnols, et donc dans la bataille à la génération suivante. C'est une référence qui a disparu et qui explique qu'il est aujourd'hui brillamment absent de la bibliographie abondante sur la mort qui est publiée par les anglo-saxons. Alors, il y a un dernier élément qu'il faut mobiliser pour ce bilan, c'est la publication assez importante, notamment en Amérique latine, depuis les années 80, de centaines de testaments d'Indiens, avec des problématiques qui, pour une part, pourraient faire appel aux problématiques de Pierre Chaunu, à savoir des problématiques qui sont liées à la portée de l'évangélisation dans les testaments d'Indiens. En réalité, là, le même travail que j'ai expliqué auparavant sur cette déperdition progressive a fait son œuvre, d'autant que ce sont des problématiques qui sont animées par des questions de subalterne studies ou de post-colonial studies, finalement, pour lesquelles Chaunu n'offre pas un arsenal pertinent. Et donc les testaments sont interrogés à partir de prémices qui sont tout à fait différentes. C'est d'autant plus étonnant qu'en fait, c'est vraiment une historiographie qui pratique la même chose, hein, qui interroge de manière systématique les préambules des testaments, leurs invocations, qui essaie de faire des études statistiques à partir de ça, mais qui l'oublie complètement. Alors, de manière plus structurante, je pense que ce qui se passe dans cette affaire-là, c'est qu'il y a un décalage très important des cadres historiographiques dans lesquels toutes ces historiographies se déplacent. Pour dire les choses très rapidement, dans le monde ibérique et hispanique, les cadres historiographiques sont très clivés entre une histoire religieuse, encore plus que chez nous, si vous voulez, parce que ça existe aussi chez nous, entre une histoire religieuse volonté apologétique et une histoire sociale et culturelle et économique qui ignore consciemment et explicitement le cadre religieux. Et donc le luxe de précision et le raffinement de la longue première partie anthropologique sur le rapport à la mort et l'eschatologie de Pierre Chaunu aboutit finalement à une forme d'histoire culturelle beaucoup plus molle, déconnectée complètement des pratiques, et puis se développe en même temps, en parallèle, une histoire statistique, sociale et économique à partir des testaments, mais qui est complètement désarticulée en réalité de ce discours. Au départ, dans les monographies, c'était deux chapitres différents, et puis maintenant, c'est très simple, ce sont des livres différents et des historiographies qui se sont autonomisées. C'est assez symptomatique quand on regarde l'évolution du chapitrage des ouvrages qui ont pu être publiés. J'ajoute de toute façon que l'échelle du travail de Pierre Chaunu est liée quand même à une organisation du travail scientifique, à une division du travail scientifique qui est un modèle qui est un petit peu passé, et la majorité des historiens en Espagne, en tout cas, qui travaillent avec des problématiques comparables, ont des échantillons beaucoup plus restreints et finalement n'auraient pas pu mener à bout ce type d'enquête. Il me semble que c'est complètement déconnecté en réalité de ce qui faisait l'originalité de la mort à Paris, puisque la marque de fabrique de ce livre, en tout cas tel que je le perçois, ce qu'il y a de plus constant dans cet ouvrage, qui le rend assez original par rapport à la production de son temps et encore plus par rapport à la production d'aujourd'hui, c'est de s'emparer de méthodes qui sont propres à l'histoire sociale et économique et qui sont un petit peu stigmatisées comme ça, pour poser des questions qui sont même au-delà de l'histoire religieuse, ce sont des questions d'histoire de la spiritualité. Des choses finalement aussi beaucoup plus aiguës et précises que ce que charrie le terme « histoire des mentalités », hein. C'est des questions autour de l'histoire des angoisses existentielles, de l'histoire de l'âme, de ses émotions, de ses craintes. Et Chaunu, du coup, ignore ou snob l'opposition entre histoire religieuse et histoire sociale. Il ne se meut pas du tout dans ce type de problématique. Il y a une sorte de partage relativement harmonieux qui fait qu'il n'a pas besoin en réalité de se poser la question, alors que l'historiographie est tellement prise dans ces partages institutionnels, dont tout le monde s'accorde par ailleurs à dire qu'ils n'ont pas beaucoup de sens pour le début de l'époque moderne, mais c'est des choses qui se reproduisent tant c'est prégnant dans nos sociétés. Donc l'historiographie étant prise là-dedans, en réalité je pense qu'elle ne peut pas véritablement comprendre l'objet de ce qu'était la mort à Paris pour Pierre Chaunu, qui du coup lui-même se trouve placé, enfin son ouvrage se trouve placé en porte-à-faux. Alors, c'est pour ça que je vais essayer de revenir au projet de Pierre Chaunu tel que je l'entends. Ça me paraît d'autant plus nécessaire parce que dans son historiographie, j'ai l'impression, même si moi non plus je suis vraiment très très loin d'avoir lu tout Chaunu, que c'est un petit peu le moment de basculement, hein, entre le Chaunu véritablement très quantitatif qui fait de l'histoire économique, voilà, qui vient de Séville et de l'Atlantique, et puis le Chaunu seconde manière qui a quand même une beaucoup plus grande attention à l'intériorité et au jeu des acteurs. Et je pense que c'est dans cet ouvrage que les choses se jouent. Donc voilà, qu'est-ce que constitue le programme de La mort à Paris si on le relit 40 ans après? C'est un texte très foisonnant qui est difficilement réductible à un fil directeur, donc ce que je vais dire est naturellement très réducteur. Ça l'est d'autant plus qu'il emprunte, je pense, assez consciemment, c'est quand même un auteur qui joue beaucoup avec son lecteur en permanence, et il emprunte consciemment des chemins de traverse, je pense qu'il brouille un certain nombre de pistes. Donc je n'ai pas la prétention de vous dire de manière très positiviste, voilà, c'est ça qu'il voulait faire, mais en tout cas, c'est ça que j'y retrouve aujourd'hui. Ça suppose que je laisse un certain nombre de thèmes de côté, et puis ça suppose aussi que peut-être que j'exagère ces spécificités par rapport aux historiens du temps auquel je vais le comparer, et peut-être que je sois un peu injuste avec un certain nombre d'entre eux, ce qu'il faudra corriger. Ça me permettra aussi d'expliciter un sentiment d'étrangeté, de dépaysement. Alors je serais curieux de savoir si d'autres l'ont ressenti, quand on prend cet ouvrage qu'on ressent à la lecture et qui n'est pas uniquement lié au fait qu'il incarne, en tout cas pour moi, qui ne suis pas un historien du quantitatif du tout, hein, qu'il incarne une forme d'historiographie que je ne pratique pas du tout. Alors je voudrais repartir dans cette exploration de son projet intellectuel d'un motif qui intervient très tôt dans l'ouvrage, qui est celui de la dérision des philosophes. au principe de l'anthropologie de la mort un petit peu sauvage et très personnelle que constitue la première partie de La mort à Paris, qui me semble à moi la pratique la plus intrigante. Il y a pour lui une sorte d'impensable, qui est la mort elle-même, qui lui fait superbement relativiser les discussions des philosophies de la mort au nom du caractère fondamentalement indicible de celle-ci. Ceux-ci ne sont pas pris au sérieux, il écrit, que les conclusions de Platon, de Heidegger, de Lavelle et de Yankelevitch soient radicalement différentes, il importe peu, la pensée philosophique sur la mort ne peut aboutir qu'à une impasse. Il n'y a rien à dire de la mort, elle-même ne dit rien, d'ailleurs, il le précise, la mort est bête, il ne faut pas écouter ce qu'on dit sur elle. Ça conduit à tourner les philosophes en ridicule, et c'est une attitude d'ailleurs tout à fait classique que Pierre Chenu connaissait nécessairement et dont on pourrait faire l'histoire. Il y a là, je crois, plus qu'un jugement rapide et un peu péremptoire et provocateur, comme il aimait un petit peu à le faire hein, quand il se met en scène dans son écriture et dans les entretiens divers qu'il a pu faire. La première explication qui s'impose à l'esprit, mais qui ne suffit pas, je pense, tient à l'école historiographique à laquelle il se rattache, même s'il y a toujours tenu une position originale, qui est celle des annales. Les analystes de sa génération partageaient pour l'essentiel ce dédain pour le rapprochement entre histoire et philosophie, ce qui ne sera pas le cas de la génération suivante. Lui-même l'affirmait déjà en 1960 en présentant les historiens comme, je cite, « les robustes artisans d'une connaissance en construction qui doivent renoncer à la tentation de l'épistémologie ». C'est un motif que François Doss repère de manière systématique parmi un grand nombre d'historiens de sa génération. Alors, il ne faut pas être dupe de cette humilité besogneuse. Il y a beaucoup plus que ça dans cette attitude. Ce qui ressort de ce passage, d'ailleurs, c'est un peu une posture d'autorité qui compte dans l'économie de sa démonstration. C'est une manière de définir et d'asseoir la légitimité de son champ au-dessus des philosophes, d'autant qu'il nous montre bien à quel point il les a lus. Une conséquence évidente de ce discrédit est l'opposition sur laquelle il revient régulièrement entre, d'une part, la logique savante, la pensée rationnelle et trop rationaliste de certains théologiens également, qui sont pour lui des théologiens trop philosophes, en quelque sorte, et puis, d'autre part, ce qu'il appelle la prière des humbles, ce qui ne renvoie pas du tout, je pense, chez lui, à l'opposition entre culture des élites et culture populaire. Je pense que c'est à dessein qu'il prend ce type d'opposition. C'est une manière, du coup, de définir le lieu de la vérité qui se situe dans la masse, car, dit-il ailleurs, il n'y a d'intelligence que collective et les réflexions individuelles sur la mort sont sans grande portée. Il y a une part on pourrait penser qu'il y a une part de rhétorique dans cette posture, en ce que justement la grande rupture chronologique qui est opérée par l'ouvrage, précisément, c'est une construction théologique très élitaire et élitiste, hein, la théologie des âmes séparées, hein, un changement d'eschatologie qui a lieu dans la foulée de l'émergence du purgatoire. Et voilà, c'est une construction de théologien, mais qui précisément chez lui n'accède au rang et à la dignité de la vérité que parce qu'elle est appropriée par la masse des fidèles, c'est-à-dire pendant la réforme catholique. Ce jeu des humbles contre les savants philosophes joue d'ailleurs, je pense, chez lui sur une autre dimension. Rire des philosophes, on le sait, c'est aussi une posture religieuse, c'est une posture assez commune dans la littérature mystique. D'ailleurs, les philosophes de Chenu sont des formes d'incarnation moderne du paganisme, même s'ils ne se privent pas également de brocarder des théologiens dans sa vindicte. Alors, je parle à dessein de mystique parce qu'il me semble que l'impossibilité de dire la mort qui est placée au principe de son écriture renvoie presque explicitement, et j'ai peine à imaginer qu'il n'ait pas fait le lien lui-même, à la mystique, à la théologie négative qui se trouve de ce fait placée au principe du texte. La crise de la mort par laquelle il ouvre sa prose est d'ailleurs placée sous une alternative qui est très typique de ce point de vue-là. La mort est interdite ou bavarde. Soit elle impose le silence, soit il est nécessaire d'en parler tout en sachant qu'on ne peut rien en dire de véritable, ce qui est le propre, ce qui est une dichotomie typiquement mystique et ce qui est aussi le propre du bavardage qui, par rapport à la parole, hein, offre aussi pour Chenu l'avantage d'être une incarnation du collectif. Ce discrédit du discours philosophique doit être rapproché dans l'ouvrage de l'organisation de sa démonstration, qui, à mon sens, rappelle le mouvement de la théologie négative, dont le propre est de multiplier les discours, les formes d'approche, les appréhensions sur un objet, pour constater négativement en creux à quel point il est au-delà de tout discours, de toute image, à quel point il est insaisissable. Et le fait qu'il propose significativement des approches, hein, c'est ça qui donne c'est ça qui scande en réalité l'organisation du livre, me paraît de ce point de vue-là assez significatif. Et il y a au bout de son raisonnement, si on tire un peu les fils, si on surinterprète un peu, mais je pense qu'il y a au bout de son raisonnement la conviction qui, moi, me plaît beaucoup, qu'il faut garder une part de mystère et que l'historien loupe son objet précisément quand il pense l'avoir saisi en le réduisant à un discours trop propre, trop net, quand il pense résoudre le problème alors qu'il doit précisément en faire le tour. Toute sa première partie narre l'incapacité des discours sur la mort à saisir leur objet pour dire en creux que ce qui compte, c'est le travail des vivants pour approcher la mort et non la mort elle-même. Et c'est cet objectif qui force à fonder le discours sur un socle anthropologique et non plus historique. Il me semble que c'est ce qui ressort du rapport entre pratique et représentation dans son travail. Pourquoi ? Parce que refuser de prendre au sérieux les discours qui prennent la mort au sérieux, sur le plan historiographique, c'est faire une coupure claire, je pense, entre la mort comme objet du discours et les attitudes face à la mort comme objet de la recherche. C'est refuser en quelque sorte d'aller chercher les attitudes dans les discours. C'est encore aujourd'hui, je pense, une leçon utile pour plusieurs champs historiographiques assez éloignés de ce qui nous occupe. C'est refuser, je pense, ce qui s'annonce au moment où le livre s'écrit et qui s'épanouit assez largement par la suite et parfois jusqu'à aujourd'hui, à savoir une histoire pure des représentations, complètement déconnectée de leur appropriation par les acteurs, le refus d'une histoire qui rabattrait en quelque sorte les pratiques sur les représentations. On ne peut pas uniquement déduire les attitudes qui constituent véritablement son objet d'un discours, et c'est pour ça qu'il faut le discréditer en partie. Les représentations et les philosophies de la mort et sur la mort, dont il fait malgré tout un usage abondant, ne valent plutôt que pour ce qu'ils font et pas pour ce qu'ils disent. Et j'y vois une manière de refuser une alternative un peu trop simple à laquelle il est difficile d'échapper, dans laquelle je viens de tomber à l'instant d'ailleurs, de toute façon, qui est l'opposition entre discours et pratique. C'est une alternative dans laquelle une partie de l'historiographie de son temps est déjà prise, et encore aujourd'hui, je pense au texte sur la formalité des pratiques de Michel de Certeau qui date de 73 et puis qui est d'une grande fécondité. La mort à Paris, j'ai l'impression, refuse ce choix et vise plutôt un intermédiaire pas vraiment défini. La ligne de fuite n'est jamais définie, de toute façon, chez Chaunu, je trouve. Et c'est une posture qui traite les pratiques, les rites, les manières de réagir face à la mort, comme d'autres discours, pour dépister ce que, pris ensemble, discours, représentation, pratique, révèlent de l'évolution des consciences qui sont vraiment ce qu'il vise. C'est pour ça, je pense, que malgré son arsenal très intimidant sur le plan des chiffres de l'histoire sérielle, et étudié un peu pour être intimidant aussi, le projet de l'ouvrage est davantage exprimé par le choix assez original de faire cette première partie, dite anthropologique, entre guillemets, beaucoup plus inclassable que ce qu'on pourrait penser. Il ne s'agit pas du tout d'une histoire des idées sur la mort ou l'au-delà. C'est un texte qui, en premier lieu, a pour effet et pour vertu, sur le plan de la narration, de mettre à sa juste place tout l'arsenal méthodologique et beaucoup plus positiviste, le terme étant pas péjoratif ici, bien entendu, qui est déployé dans les parties suivantes, et puis a marqué une différence par rapport à l'histoire des mentalités et à l'histoire sérielle dite du troisième niveau, selon l'expression qui est alors consacrée. Si vous voulez, j'ai l'impression que dans un même mouvement, le livre revendique une méthodologie, celle de l'histoire sérielle, et la retourne ou en sape les fondements, ou demande de regarder ailleurs. Tout se passe comme si le troisième niveau chez lui était le plus profond, dans un clin d'œil dans la construction de l'ouvrage qui me paraît peut-être un peu ironique à la Méditerranée de Brodel, parce que son socle anthropologique est beaucoup plus long que la longue durée en réalité. On s'en rend bien compte en comparant ce travail à un autre texte quasi contemporain, enfin immédiatement antérieur et puis qu'il connaissait bien entendu, qui est le texte de Jacques Le Goff sur les mentalités dans l'ouvrage Manifeste de la Nouvelle Histoire, qui date donc de 73, qui lui est très évasif sur la place des mentalités dans la fusée à trois étages de Brodelienne. Je dis évasif parce que la question n'est pas posée dans la contribution de Jacques Le Goff, mais on sent qu'elle travaille son texte. Pour approcher les mentalités, il parle de je ne sais quoi, la formule étant sans doute mise à la mode par Yankelevitch. Il parle de résidus aussi, dans une mobilisation à peine voilée de la figure brodelienne de l'écume, d'au-delà de l'économique et du social. Il appelle de ses voeux une histoire sérielle et statistique que Chaunu va faire mais que lui ne fait pas, et puis il embraye sur son approche beaucoup plus anthropologique et lévi-straussienne. Voilà, et donc cette question de l'articulation de la place, de l'étagement de la place des mentalités dans l'historiographie du temps, est-ce qu'on est vraiment dans un troisième niveau ? Elle prend des configurations très différentes dans les historiens de l'époque, qui ont été, il y a des travaux d'historiographie là-dessus, et il me semble que Pierre Chaunu, lui, revendique autre chose et fait en quelque sorte un pas de côté. Il écrit immédiatement dans la foulée de Le Goff, il est moins hésitant en réalité, et il renverse les choses. Il ne se place pas dans l'histoire des mentalités, d'ailleurs, faudrait reprendre, mais je ne crois pas qu'il cite énormément le terme en réalité, alors qu'il est, il est labellisé un petit peu comme ça. Elles sont pour lui, voilà, ce qu'il travaille, c'est une sorte d'au-delà ou d'en deçà, une couche intérieure plus profonde, un socle structurant en amont des mentalités elles-mêmes, je pense, puisqu'il revendique une ampleur anthropologique qui, à mon avis, est une manière de penser contre la longue durée. La question de l'articulation des mentalités avec la société et l'économie, du coup, s'en trouve décalée. Schonus s'aventure dans le domaine souvent jugé un peu risqué de l'histoire de la psyché, alors sans avoir un recours explicite à la psychanalyse ou quoi que ce soit, mais l'histoire de la psyché, des tourments intérieurs, de l'irrationnel, de l'incertitude. Et il me semble que ce sont ces questions-là qui organisent en sous-main ces interrogations de testament. La comparaison avec Le Goff, d'ailleurs, est assez éclairante, car on pourrait argumenter, en quelque sorte, si on acceptait l'hypothèse que Schonus est vraiment l'histoire des mentalités, on pourrait argumenter qu'il traite de mentalités opposées. Chez Le Goff, ce qui caractérise les mentalités, c'est d'être en commun à plusieurs hommes, au sens où ce sont des structures, des cadres de pensée, des chaînes cognitives, des attitudes qui contraignent la grammaire de la pensée, qui sont propres à une société et qui sont donc historicisables. Et en réalité, on est très proche encore de la notion d'outillage mental qui était celle de la génération immédiatement antérieure. Et d'ailleurs, le texte de Le Goff s'enlise un peu dans une discussion délicate sur l'héritage de Lévi-Brull, ce qui est assez significatif. Dans cette perspective-là, si vous voulez, la conscience, la réflexivité des acteurs sont complètement hors du champ. À la limite, elles sont implicitement renvoyées au domaine des variations individuelles et négligeables. Or, dans La mort à Paris, la tonalité est discrètement mais fondamentalement différente, ce qui explique d'ailleurs que Schonu ne soit pas du tout attiré par une histoire structuraliste comme l'est Jacques Le Goff au même moment. Il me semble que ce que vise Schonu, c'est l'état des consciences elles-mêmes, leur réflexivité, leur angoisse, et que c'est un geste dont je n'ai pas pu m'empêcher de penser qu'il mimait pour une part Luther lui-même. Alors, je ne pense pas que Schonu se pense en Luther, hein, mais il y a quelque chose de ça dans cette attitude. C'est un livre qui refuse de faire taire les consciences et les vies intérieures, en quelque sorte. Et ce n'est pas vraiment une question d'objet, mais c'est une question de méthode et derrière de position philosophique, religieuse et probablement politique. Alors, il me semble aussi que si on part de ce prémisse-là, on comprend ce qu'il différencie de l'histoire des émotions que La mort à Paris anticipe, mais qui prend aussi une forme assez différente de ce qu'il opère. Si on compare par exemple à Delumeau, dont la peur en Occident est aussi quasi contemporaine, alors que même sur le principe, les projets pourraient paraître assez proches. La démarche de Pierre Schonu n'est pas la même parce qu'elle aboutit à un refus de l'histoire des représentations et s'interroge moins sur une émotion, la peur, que sur l'appréhension de la mort et la manière dont la mort commande un rapport au monde et organise des pratiques. La peur de Delumeau, si vous voulez, elle est logique, elle est assez compréhensible, elle est une réaction à des circonstances bien identifiées, elle est le fruit, par exemple, d'une pastorale de la peur. Elle n'a pas besoin de se poser la question de l'appropriation par chacun de ses sentiments collectifs. Elle est le fruit d'un contexte historique assez global. Et si vous voulez, c'est un petit peu une histoire qui roule, j'ai envie de dire. On comprend ce qui se passe, sa peur ne fait pas vraiment peur. C'est une histoire qui peut aussi, du coup, assumer ses liens de causalité beaucoup plus facilement que celle de Pierre Schonu. Schonu lui-même est beaucoup plus évasif, par exemple, au moment de théoriser le type de causalité qui joue entre les différents niveaux qu'il articule. C'est une question qui l'intéresse assez peu. Ça découle, je pense, de son dédain pour l'épistémologie, mais c'est aussi peut-être une manière d'éviter de tomber dans des formalisations théoriques trop faciles qui trahissent la logique des choses et puis qui sont aussi la chose la plus facile à critiquer chez un collègue. Je pense aussi que c'est la marque d'une conviction que voilà, il y a quelque chose comme une boîte noire qu'il ne faut pas complètement ouvrir sur ce plan-là. La conséquence de ça, c'est que la différence avec Delumeau est sans doute assez ténue, mais il me semble que La mort de Schonu se situe à un grade en dessous, à un niveau plus existentiel. Elle souligne l'angoisse et la volonté de faire son salut individuellement, la manière dont chacun s'approprie un contexte et religieux et un discours dans un face-à-face avec Dieu. Ce que dit Schonu, ainsi, dit d'une autre manière, la peur de Delumeau est incarnée parce qu'elle est produit de croyances et de représentations, elle est le fruit des images de la mort. Or, ce que dit Schonu, je pense, c'est que ce n'est pas l'image de la mort qui fait peur, c'est la mort. Et qu'il faut maintenir un petit peu cette distinction. Et ce qui lui permet de faire ça, c'est précisément le pas en arrière, le glissement de la longue durée vers l'invariant anthropologique qu'il a fait en première partie, qui lui permet de mettre en avant ces questions d'ordre, disons, psychologique, même si le terme est, j'en conviens, assez mal choisi. Alors ça change pas mal de choses, parce que chez Schonu, le discours chrétien sur la mort... C'est pas qu'il n'a pas d'effet terrorisant, mais ce qui le traque au bout du compte, c'est la manière dont il finit par rassurer et par guérir la peur du jugement. Alors, il le dit explicitement, il dit « La peur a été la grande chance de la réforme catholique. quand elle a pris Paris dans les années 1620-1630. Mais le succès de la réforme catholique chez Chaunu, c'est un petit peu la mort vaincue. C'est vraiment, de ce point de vue-là, une histoire extrêmement chrétienne. Il note d'ailleurs, parallèlement, un peu en passant, la concordance, finalement, entre le succès idéologique de la réforme catholique tel qu'il le lit dans les testaments et le reflux concret de la mort à Paris après les années 1660. On meurt moins. Enfin, le régime démographique change sur ce plan-là. Toute la visibilité désagréable du discours terroriste et macabre n'est chez lui, du coup, qu'une forme transitoire qui annonce l'intériorisation du message chrétien et qui disparaît en réalité quand on n'a plus besoin de ça pour que le message de la réforme catholique, quand le message de la réforme catholique a été incorporé. Et donc, en quelque sorte, j'ai l'impression du coup que tout l'arsenal sériel est là, en quelque sorte, pour mettre un discours à l'épreuve et pour montrer comment la réforme catholique triomphe en définitive de tout désir de réductionnisme sociologique. La démarche est presque ascétique, il me semble, à une histoire spirituelle, très intellectuelle, appuyée sur l'évolution des doctrines, qui est une image, une histoire qu'il est très facile de critiquer quand on fait de l'histoire sociale, de l'histoire des pratiques. On dit toujours, oui, mais en vrai, quand on regarde les pratiques, la réception, on se rend bien compte que c'est très différent. Alors lui, justement, il passe en quelque sorte cette histoire-là sur le tamis de l'histoire sérielle. Il met son intuition à l'épreuve positiviste du quantitatif pour mieux la faire triompher. Il y a un vrai usage de ce point de vue-là sur le plan de la narration. Et là aussi, je pense que ce n'est pas sans lien avec le régime intellectuel de la théologie négative. Chaunu soumet la doctrine chrétienne sur la mort à un régime dont on pourrait penser qu'il va finir par limiter considérablement son impact et qui finit par avaliser son succès. On a l'impression, à le lire, que l'histoire sérielle, telle qu'il l'interprète, révèle l'histoire religieuse à elle-même, elle l'épure, en renvoyant les variabilités sociales des appropriations de la doctrine tridentine du côté de l'écume, justement, du superflu, alors que la vraie tendance, c'est la diffusion des idées de la réforme catholique, c'est la diffusion de cette eschatologie, et donc derrière elle, l'intériorisation des conséquences de l'émergence du purgatoire et de l'eschatologie qui va avec. Du coup, le rapport à la mort n'est qu'assez superficiellement un fait de société. Le point fondamental et non plus d'écrire une histoire du rapport à la mort dans la société moderne, mais bien une histoire chrétienne, c'est-à-dire une histoire de la manière dont la mort est appropriée dans le cadre d'un discours chrétien. C'est la raison, je pense d'ailleurs, pour laquelle il est crucial, dans son raisonnement, de faire un détour assez atypique, en réalité, par la théologie protestante, pour rappeler que malgré le refus du purgatoire qui organise toutes les dévotions et les pratiques culturelles autour de la mort catholique, les réformés partagent avec le catholicisme tridentin l'eschatologie des âmes séparées, qui est la matrice de son interprétation. Les deux réformes, du coup, sont renvoyées dos à dos, et la grande rupture est placée en amont, mais sans quitter pleinement le terrain de l'histoire des sensibilités religieuses. Alors qu'une large partie de l'historiographie qui a suivi s'est attachée à rapprocher réforme catholique et réforme protestante à travers les notions de confessionnalisation, de discipline sociale, c'est-à-dire sur le terrain, en réalité, des rapports entre État et société, c'est sur le terrain de la théologie et du caractère foncièrement chrétien dans la longue durée de ces évolutions que Chaunu se place pour aboutir à des résultats comparables. C'est ce qui lui permet, du coup, de lire un certain nombre de silences comme des formes d'intériorisation du discours théologique et pastoral. Ainsi, le reflux, alors sûrement un petit peu discutable, mais bon, globalement, je pense assez convaincant, mais le reflux de la culture macabre à la fin du XVIe siècle, le changement du rapport au corps que cela suppose, qui est interprété à la lumière du succès désangoissant de la théologie tridentine, que l'ouvrage s'attache à décrypter. Un exemple me paraît significatif aussi de ce type de raisonnement, c'est l'idée selon laquelle l'absence des parents à l'enterrement de leurs jeunes enfants s'explique non pas par un désintérêt pour leur salut, mais bien par une compréhension très profonde du baptême et de la sotériologie du temps, dans laquelle il ne sert à rien de prier pour un enfant baptisé car il n'a pas besoin du suffrage des vivants pour être sauvé. Et donc, en d'autres termes, même si la méthodologie de Chaunu propose des gages d'objectivisme positif, une accumulation de données qui sont présentées comme des faits, des tableaux à n'en plus finir. L'ouvrage n'a rien d'une démonstration factuelle, mais il s'appuie sur des choix d'interprétation extrêmement forts qui sont posés dès le début, sur des questions posées au corpus qui interpellent directement l'histoire religieuse et l'histoire du rapport à l'au-delà et qui, significativement et hélas, ne sont jamais reprises dans l'historiographie par la suite. Je serais curieux de savoir, par exemple, ce qu'il pense du poncif assez frileux, qui voudrait que l'historien ne puisse jamais sonder les cœurs et les croyances intimes. Il me semble au contraire qu'à l'inverse, il essaie de les appréhender, de les photographier, alors qu'elles sont insaisissables, à partir d'instruments qui semblent précisément les plus inadéquats, comme s'il avait voulu rendre l'épreuve la plus difficile possible. Là où, quand ce projet d'une histoire de l'intériorité est formulé aujourd'hui, c'est à partir de souffles précisément beaucoup plus qualitatives que ce qu'il fait. Je prends deux exemples du type de questionnement justement qu'il impose à son arsenal de données qui ne sont pas repris et qui me semblent assez intéressants et qu'on ne retrouve nulle part chez tous les historiens qui sont emparés de la question, je pense, en tout cas pas avec la même ampleur. D'abord, celle de la temporalité des messes et celle du changement de la hiérarchie de la cour céleste. Chaunu pense que le temps des fondations est en gros l'époque médiévale et que l'époque moderne voit l'essor des messes, même si naturellement les fondations perdurent dans l'élite. C'est un résultat qui me paraît d'autant plus intéressant qu'aujourd'hui l'historiographie sur les fondations pense un peu l'inverse quand on la lit, précisément parce qu'elle a un tropisme élitaire qui bloque un petit peu les choses. Et puis surtout chez lui, c'est la marque de l'appropriation progressive en deux étapes de l'eschatologie nouvelle, qui exige d'abord de concentrer les suffrages dans les jours qui suivent la mort, immédiatement, parce que vous êtes jugé 48 heures, dans votre jugement particulier, 48 heures après être mort. Ça suppose de concentrer un maximum de messes dans un temps extrêmement court. Et donc les fondations perpétuelles ont un intérêt finalement assez limité. Et puis ensuite, par l'intériorisation progressive de la théologie du purgatoire, qui suppose une prière cléricalisée, qui là aussi va dans le temps, mais qui n'a pas besoin d'être éternelle, puisque l'idée, c'est naturellement de réduire le temps du purgatoire. De la même manière, enfin de manière comparable, il y a une analyse, à mon avis, assez pionnière de la lexicographie. Alors, j'ai été assez impressionné par la débauche d'études lexicographiques sur ces préambules de testament. C'est assez pionnier et ce qui m'a paru significatif, c'est qu'il utilise tout ça pour étudier et pour mettre en évidence un réagencement de la hiérarchie de la cour céleste qui a lieu début 17e, c'est-à-dire la séparation du Christ comme intercesseur par rapport aux autres. Toutes les études sur les préambules que j'ai pu lire en Espagne font cette étude sur la cour céleste, mais précisément on ne voit plus du tout la rupture. Parce qu'on est dans une histoire culturelle où on cherche un système extrêmement vaste et on ne perçoit plus du tout cette gradation de l'intériorisation de la réforme catholique, parce que lui, ce qu'il dépiste, c'est le christocentrisme. Voilà, donc, en d'autres termes, Chaunu a cherché des questions dont la réponse ne peut être formulée qu'à partir d'une histoire de la théologie, qui est la véritable matrice de son travail. Ça le rend assez original, je pense aussi, j'y reviens un tout petit peu, sur le rapport entre normes et pratiques. Si vous voulez, s'il fallait écrire un dictionnaire des idées reçues historiographiques, au chapitre pratique, il faudrait écrire toujours au pluriel et toujours éloigné de la norme. Et effectivement, c'est une prévention qui est salutaire, mais ce qui m'intéresse, c'est précisément chez Chaunu, la volonté de ne pas superposer les deux dimensions, bien sûr, mais de travailler à la manière dont elles se rapprochent à partir des acteurs eux-mêmes. C'est-à-dire c'est une classe de bons élèves, en quelque sorte. Le bon élève, c'est une formule de Paul Venn. C'est-à-dire les gens qui veulent rentrer dans le système et que finalement, on oublie toujours. Alors, quand ce rapprochement est aujourd'hui dans la ligne de mire de l'historiographie, c'est en général au forceps, avec le soutien de l'État. C'est l'histoire des missions, c'est l'histoire de l'évangélisation, c'est l'histoire de la discipline sociale. Or, chez lui, précisément, tous ces acteurs-là sont complètement absents. Il n'y a pas d'État, ou vraiment extrêmement peu. Il y a très peu de clercs. Les clercs sont une catégorie de gens qui font des testaments, mais en fait, l'architecture ecclésiastique est véritablement très peu présente dans sa démonstration. Alors, par rapport à la question des pratiques, si je reprends le texte quasi contemporain de Michel de Certeau, alors le fond du texte de Michel de Certeau, même si c'est un texte très, très compliqué, mais c'est d'argumenter que la doctrine cesse d'être le cadre de référence des pratiques, qui glisse progressivement vers une éthique, précisément en partie à cause du renforcement de l'appareil d'État et de préoccupations collectives. Chaunu produit exactement l'inverse en réalité, c'est-à-dire une histoire quasi sans État dans laquelle la doctrine continue de plus en plus de formaliser des pratiques très au-delà du Moyen-Âge finissant. Tout ça découle, je vais en finir avec ça, d'un choix herméneutique fort qui est de tout réinterpréter à partir de l'appropriation d'une eschatologie nouvelle, dont il fait l'histoire de l'appropriation, ce qui colore l'ensemble de l'ouvrage. Et donc, ce qui ressort de ce travail, c'est le primat du théologique. C'est un choix qui me paraît indéniablement fécond, qui gagne à être explicité, mais qui doit être aussi replacé également dans le contexte de ses postures intellectuelles à lui et de ses prises de position publique et politique, parce que voilà, je pense que ce livre sur la mort est publié à un moment où Chaunu est très présent sur la scène publique, hein, et où les questions, parce que c'est un livre en gros qui explique qu'une société qui refuse la mort est une société qui ne parle plus de la mort et qui est en train de l'évacuer, est une société précisément qui est en train de mourir, et le livre est une réaction contre ça assez clairement, je pense. Voilà, je vous remercie.